France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Département de la République française depuis 2011, Mayotte est aussi le royaume de ses exceptions. Ce statut peu enviable vient d'ailleurs tout juste d'être confirmé et même officialisé en quelque sorte par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a validé le 7 août dernier les dispositions pourtant profondément discriminatoires de la loi dite « Programmation pour la refondation de Mayotte ». C'est précisément de cet archipel des Comores qu'est l'écrivaine Toufat Moutar. Elle y est née et elle publie en cette rentrée « Chose qui arrive ». Elle nous rejoindra pour la deuxième partie d'une suite dans les idées consacrées cette semaine à ces dimensions nocturnes de la République française, à ces exceptions territoriales et coloniales dont l'historienne et sociologue Delphine Gardet a écrit l'histoire avec le corps noir de la République. Bonjour Delphine Gardet.
Bonjour.
Vous êtes donc historienne et sociologue, professeure à l'Université de Genève et vous publiez aux éditions textuelles Le corps noir de la République, de l'esclave au député, 1789-1946. Je le disais, historienne, mais aussi sociologue. Et d'ailleurs, vous commencez par relever à quel point ce livre, qui est un livre d'histoire, est aussi un livre qui s'inscrit dans un moment contemporain. C'est une remarque qui vous a semblé importante de faire figurer au tout début du texte, parce que l'histoire que vous écrivez continue de produire ses effets. L'exemple de Mayotte est saisissant. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Mais au fond, je voulais qu'on démarre ensemble cette émission par là, sur la manière dont la sociologue que vous êtes, qui s'intéresse à la situation contemporaine de la France, dialogue avec l'historienne que vous êtes également et qui a choisi d'écrire cette histoire-là.
Oui, il s'agit vraiment de penser autrement ce qui semble être notre paysage politique et institutionnel, d'interroger finalement ces invisibles qui, par leur histoire, donc ces hommes, esclaves, colonisés, essentiellement des hommes, entre 1789 et 1944-45, qui finalement ont écrit avec leur destin, leur foi, contribué à un idéal, à la possibilité d'une république fraternelle, universelle, accordant des droits. Et donc, ils se sont, dans leur existence même, trouvés confrontés à la fois à ce qu'il y avait de promesses dans ce pacte, et puis de défaillances et de violences dans les mises en exécution de toute une partie de la pratique coloniale républicaine. Donc je trouve qu'il y a un déni ce qu'on appelle un déni de colonialité, c'est-à-dire, effectivement, la France ne regarde pas à la fois les atouts, les atours qu'ont été ces hommes dans cette histoire, ou les contributions de ces personnalités, et refuse de regarder vraiment en face la colonialité au sein de ses propres institutions.
Et aujourd'hui, cette représentation, vous ne travaillez pas sur cette situation contemporaine, mais il suffirait de prendre des photos de ceux et celles qui composent les assemblées, par exemple, de la République, pour voir que ces photos seraient très différentes de celles qu'on pourrait faire dans des parlements d'autres pays qui ont également été des empires coloniaux, je pense au Royaume-Uni en particulier. Comme si, au fond, au moment où vous arrêtez d'écrire cette histoire, ou un petit peu plus tard, en 1958, par exemple, disparaissait aussi la représentation de ces corps noirs dans les hémicycles des parlements.
Oui, il y a un effacement donc, qui est très important. Évidemment, ces acteurs vont s'investir dans d'autres luttes, la lutte en faveur de la décolonisation de leur propre territoire. Donc il y a une dimension. Mais ils participent pendant toute la 4e République. Donc on s'arrête au seuil de la 4e. Ils vont jouer un rôle déterminant dans les actes constitutionnels de 45 et de 46. Donc il y avait vraiment une contribution très importante. Monnerville est président donc, du Conseil de la République, l'actuel Sénat, pratiquement l'essentiel de toute la 4e République. C'est le troisième personnage de l'État, c'est un grand opposant à De Gaulle. Bon, est-ce qu'on a encore souvenir des trajectoires et des objectifs et de ce que ces personnalités souhaitaient accomplir? Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'effacement qu'il s'agissait de réenrichir. C'est une historiographie, une histoire qui n'est pas connue, mal connue, ou seulement de quelques spécialistes ou de quelques aires de l'Empire. Mais il n'y avait pas de trame générale de cette aventure, en fait.
Alors, c'est ce que vous proposez dans ce livre, dont je n'ai pas dit qu'il était un fort volume, un gros livre, ce qu'on appelle aussi un beau livre en règle générale, mais il a beaucoup plus de textes que les beaux livres d'habitude. Il comporte, à côté de ce texte, ces textes qui sont éclatés avec des focus, on y reviendra, mais une iconographie assez considérable aussi, qui fait partie du travail de recherche que vous avez mené.
Oui, je crois qu'il y avait vraiment cette idée de rendre visibles les personnages. Donc il y a la proposition d'une trame narrative, on pourra peut-être avec une série de thèses, on pourra peut-être y revenir. Donc qu'est-ce qui se passe entre 1789 et 1946? Mais il y a aussi l'idée de donner à voir des personnages complètement oubliés, donc de focaliser, c'est pour ça qu'il y a des focus avec des documents, des dires, on entend leurs interventions à la Chambre ou les textes qu'ils ont pu écrire, donc les convictions qu'ils avaient, qu'ils portaient, les espérances, les luttes qu'ils ont conduites, donc dans différents moments, complètement, enfin en 89, en 48, on a un communard dont personne n'a jamais entendu parler, Melville Blancourt qui vient de Marie-Galante, enfin, on pourra réinsister sur ces personnages. C'est aussi le double registre d'écriture permet aussi au lecteur et à la lectrice de ne pas forcément lire in extenso, mais d'aller chercher à un moment une histoire en fonction d'une région, le Sénégal, la Réunion, la Martinique, Cayenne, la Guyane, la possibilité d'en savoir plus sur les enjeux politiques, territoriaux, économiques, et donc sur le rôle que jouent ces élus par rapport à ces questions.
Sur une longue période, hein, 1789-1946, au fond, on va revenir sur certains de ces moments, sur certains de ces personnages, pour reprendre votre terme. Mais avant ça, je voudrais vous donner l'occasion aussi peut-être de replacer ce livre dans un travail plus large qui est le vôtre, puisque précédemment, vous aviez aussi interrogé cet universalisme républicain avec des grimets à l'aune cette fois du genre et de l'invisibilisation des femmes dans la République. Ça faisait l'objet d'un travail précédent. Pour vous, il y a une forme de continuité au fond.
Oui, alors manifestement, c'était mon destin. C'est-à-dire que dans les dernières pages du linge du Palais Bourbon, qui était une sorte d'anthropologie historique à partir des archives intérieures de l'Assemblée, de l'atmosphère qui règne dans la Chambre, au-delà de la présence, enfin, de l'absence des élus, enfin, des femmes, donc d'une chambre masculine, où peu de présence féminine, même dans le travail ordinaire, je me suis retrouvée avec cette image qui fait la figure d'ouverture, la couverture du livre, le magnifique portrait peint en pied de Jean-Baptiste Bellé, représentant de Saint-Domingue à la convention par Giraudet, un élève de David, et j'ai réalisé qu'il y avait 150 ans d'écart entre les premières femmes, fussent-elles métropolitaines ou antillaises, députées, et le premier député issu de l'esclavage. Et donc, ça questionne autrement définition de ce qui peut entrer. Donc là, j'emprunte à Achille Mbembe dans la communauté des semblables, donc les frères. Donc, en tant que féministe, on a beaucoup travaillé sur la République des frères. Donc John Scott, d'autres chercheuses historiennes françaises.
Citoyenne paradoxale.
Voilà, citoyenne paradoxale. Donc il y avait qu'est-ce qu'elle est cette définition d'universalité, qui en fait partie, n'en fait pas partie, quelles sont les formes d'exclusion. Et là, il y avait quelque chose d'à la fois, encore une fois, d'une promesse, c'est-à-dire certains républicains, car il faut bien le dire, ils n'étaient quand même pas révolutionnaires, tous en faveur de l'émancipation des esclaves, ont donc travaillé à la possibilité, et les esclaves de Saint-Domingue se sont auto-émancipés par leur révolte, que le citoyen, le nouveau citoyen émancipé de l'esclavage, puisse être membre du souverain, de cette définition de la souveraineté nationale qu'est l'Assemblée, la Convention. Et donc là, il y a 150 ans d'écart, et dans l'aventure qui a été de réfléchir à ces 150 ans d'écart, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'histoires et de trous à combler. Certes, il y a eu beaucoup de travaux, mais il manquait la possibilité de tenir un récit substantiel que j'essaye de tenir et qui m'a donc occupé un nombre d'années et qui donne lieu à ce livre.
Un récit qui consiste aussi à relier peut-être, j'allais dire, les petites lumières qui ne sont pas le grand récit des lumières avec un grand L, des petites lumières qui éclairent ce que Achille Mbembe aussi appelle « nocturne de la République », vous reprenez l'expression.
Oui, c'était vraiment mon idée de travailler avec lui, ou après Dubois, enfin Dubois, pour les Américains, donc ce penseur afro-américain du début du XXe siècle, cette idée que les démocraties ont en fait un versant nocturne. Ce versant nocturne, il est déjà et toujours présent au cœur en fait du programme républicain, puisque tout de suite et déjà les républiques, la première, la seconde et la troisième encore plus, sont des républiques coloniales. Et donc le nocturne, c'est le versant de l'expropriation, de la domination, de l'exploitation, qui est le fait de ces républiques avec de ces États avec esclaves, puisqu'il faut quand même deux abolitions, celle de 94 et celle de 1848, pour que la traite et l'esclavage cessent au sein de l'Empire colonial français.
Deux abolitions, ou dans d'autres circonstances, je pense aux États-Unis. L'abolition, puis le fait de gommer un petit peu la ligne de couleur, enfin cette situation de fait qui, au-delà du droit, va perdurer. Au fond, l'autre manière que vous avez de poser la question, ça consiste aussi à considérer que tout ça n'est pas résiduel, que tout ça n'est pas quelque chose qui est appelé à se transformer dès le départ. Au fond, il y a quelque chose dans le projet lui-même, au départ, qu'il faut tenter de saisir, et dans une vision qui n'est pas une vision téléologique, au fond, Delphine Gardet.
Ben non, malheureusement, il n'y a pas forcément de progrès dans l'histoire. On est bien au courant aujourd'hui, hein, manifestement, on s'en rend compte tous les jours. Quels que soient les énoncés principiels, les proclamations, il peut y avoir aussi beaucoup de complaisance dans la façon dont on raconte l'histoire républicaine française. Il faut bien prendre acte du fait qu'à tout moment, il y a eu des luttes entre certains minoritaires qui ont été en faveur de ces émancipations et d'autres qui ne l'étaient pas. Et que sans la capacité d'autodétermination des populations des différentes colonies, il n'y aurait pas eu la possibilité qu'elles soient intégrées dans le corps national.
Alors, une autre tension qui structure le livre, c'est celle entre la multitude de ces territoires liés à cet empire colonial qui se situe en Amérique, qui se situe dans l'océan Indien, en Afrique, et le centre politique d'un pays extraordinairement centralisé, la France, où Paris joue un rôle très important, où Paris est le lieu où débarque, au fond, de toutes ces destinations ou de tous ces points de départ, ces personnages. Ça aussi, c'est une dimension peut-être un peu plus géographique de ce travail. J'en profite pour dire qu'on parlera de géographie tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission à propos du Festival international de Saint-Dié. Delphine Gardet.
Oui, en fait, on a un premier empire qui est constitué de Saint-Domingue, de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, et puis les comptoirs du Sénégal, pour aller vite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'au fond, ce qui se produit vis-à-vis de ces territoires et de ces populations, et notamment de cet empire qui est bâti sur les colonies de plantation, ou qu'on pourrait appeler donc les colonies à esclaves, puisqu'elles sont des espaces où ont été transportés en masse des esclaves depuis le continent africain, vont avoir une évolution politique dans ce contexte républicain plus favorable, entre guillemets, hein, que les autres parties de l'Empire qui sont issues de ce second Empire qui débute alors assez tôt avec l'Algérie 1830, mais sous la Troisième République, on a une conquête coloniale exceptionnelle de toute une série de nouveaux territoires. Et dans ces nouveaux territoires, ce qui a été acquis pour les citoyens et les issus de l'émancipation, donc aux Antilles et au Sénégal, et la députation à Paris qui leur a été accordée ne sera pas du tout possible, car il ne devient évidemment pas possible d'envisager d'étendre à des populations considérables, alors qu'on est en pleine conquête, qu'on exproprie les terres en Algérie, qu'il y a toute une série d'effets concrets de conquête coloniale avec tous les aspects économiques, dérogatoires aux droits et tout ce qui s'ensuit, et des activités extrêmement violentes. On ne va pas donner de droits à ces populations-là, qui seront donc des sujets français et indigènes. Donc il y a une bifurcation très importante qui intervient dans l'histoire coloniale française, en régime républicain. Et c'est pour ça qu'on a comme un héritage du passé, en quelque sorte, avec ces députés ici, issus des colonies du Premier Empire colonial français, qui siègent à Paris et représentent leurs concitoyens, concitoyennes et leur territoire, alors que, bien sûr, il n'est pas question qu'un musulman, qu'un arabe, qu'un berbère, qu'un indo-chinois vienne siéger et représenter une circonscription à Paris sous la Troisième République. Seuls les colons et les Européens, les Blancs, les descendants des colons, ont des droits politiques et électoraux dans le contexte algérien, puisque c'est une série de départements.
Alors, justement, là, vous pointez une réalité historique qui est cette profusion de statuts liés à des moments de l'histoire, liés à des territoires. Et c'est face à toute cette matière extraordinairement complexe que vous avez dû vous retrouver au début de cette enquête d'Delphine Gardet, et dont vous essayez de faire l'histoire fine, au fond, parce que c'est compliqué d'embrasser tout avec une théorie simple. Au fond, on est obligé de passer par la description de ces situations et de ces logiques qui, encore une fois, ne vont pas toujours dans le même sens, peuvent revenir en arrière pour sauter des cases, peuvent être très contrastées d'un lieu à l'autre, en fait.
Oui, c'est ce que vous indiquiez au début d'émission, c'est que finalement, la dérogation à la norme est la norme de la République coloniale. Et au fond, dès le début de l'histoire de la République, sous la Révolution française, la question est réglée, parce qu'on avait l'hypothèse, pourquoi ne pas tenter, ce qui sera une des hypothèses de Victor Schœlcher, l'abolitionniste de 48, une assimilation, alors on va dire politique, des territoires colonisés, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux questions. Il y a la question des droits des sujets, mais il y a la question du statut des territoires et de la loi qui s'y applique. Or, la République, sauf pendant une période extrêmement courte, les différents régimes républicains vont toujours se traduire par le fait que le droit métropolitain, c'est-à-dire même le droit voté par un Bélé ou par un Césaire ou par un Egesip Legitimus guadeloupéen à Paris, ne s'applique pas au territoire qu'ils représentent.
Dont ils sont, voilà, les
dont ils sont issus. Oui. Donc, on a vraiment une configuration à la fois de non-isomorphie, c'est-à-dire que, donc, en fait, l'égalité devant la loi devrait prévoir une définition des droits isomorphes partout dans l'espace. Ça va jamais être le cas. Et c'est un des enjeux permanents pour ces élus, notamment dans les vieilles colonies, d'obtenir ce qu'ils obtiendront finalement avec la départementalisation en 1946, la fin d'un cycle très long qui consiste à bénéficier du droit semblable. Or, évidemment, très vite, même dans l'application, ils n'auront pas exactement le droit semblable. Et les enjeux, ils sont normatifs, ils sont juridiques, ils sont politiques, ils sont sociaux. Par exemple, bénéficier des droits sociaux, qui commencent à émerger entre les deux guerres et qui vont être importants à la libération avec le nouveau pacte qui s'instaure de providence, d'état social.
Avec la sécurité sociale.
Voilà, oui.
Alors, bon, malgré tout, pour organiser les choses, vous avez découpé en grandes séquences chronologiques, parce que il faut tenter d'y voir clair. La première vous conduit à regarder de plus près le moment révolutionnaire. On sait qu'en général, en France, on accorde une attention particulière à ce moment, parce que c'est vrai qu'il inscrit un certain nombre de choses qui vont pas nécessairement toujours se déployer par la suite ou qui vont faire l'objet de contre-révolutions. Néanmoins, ce moment révolutionnaire, pourquoi vous semble-t-il important du point de vue de la question qui vous intéresse ?
Je dirais que d'abord, l'historiographie française a mis du temps à s'occuper de la question de l'Empire et de la colonialité au sein de cette histoire de la Révolution. Elle l'a fait assez tardivement, et je pense qu'on a eu aussi intérêt à entendre nos collègues américains ou des zones caraïbes pour finalement aussi modifier certains aspects du récit national.
Et notamment en comparaison aussi avec d'autres révolutions, parce que oui, c'est vrai qu'à l'école en France, on enseigne assez peu la Révolution haïtienne et pas du tout ou presque la Révolution américaine non plus.
Voilà, donc il faut changer parfois de perspective pour voir les choses. Bon, là, peut-être que dans ce moment révolutionnaire, il faut donc rappeler cette minorité. Il y a très peu de gens qui défendent, qui sont farouchement en faveur de l'émancipation, de l'esclavage et du droit de la reconnaissance des hommes esclaves comme hommes, comme frères, comme citoyens, comme humains, comme personnes complètes. Mais il faut aussi se souvenir qu'il y a deux types de populations. Il y a les libres. Et il y a les esclaves. Donc, et en fait, les libres, ce sont ces individus qui sont issus des métissages ou des alliances consenties ou subies au sein des sociétés esclavagistes et qui ont un statut à la naissance du fait de la liberté du père, par exemple, en ayant une mère esclave, ou qui sont affranchis du fait de leur activité, de leur renommée ou par l'acquisition de toute une série de traits politiques et sociaux. Et donc, ceux-là vont conduire des luttes qui sont spécifiques et obtenir des droits en premier. Et ce qui est intéressant, si on fait une histoire des sociétés de classe et de race de ces sociétés plantationnaires, c'est que, donc là, bien sûr, on a les travaux de Frédéric Régent, par exemple, qui est un très grand historien de ces questions. On a vraiment des groupes qui vont osciller entre le parti des colons, leur propre voix, et puis la définition d'objectifs pour les esclaves. Et donc, si on les reprend ensuite, parce qu'ils vont tout perdre aussi avec le retour de Napoléon Ier, c'est-à-dire qu'ils perdent tous leurs droits civils et politiques, comme les esclaves retrouvent la condition servile, sous le premier 19e siècle, de nouveau, des acteurs de ces catégories, donc des libres de couleur, vont essayer de recouvrer leurs droits civils et politiques. Par droits civils, on entend aussi ne pas être discriminé dans le statut personnel pour l'accès à certaines professions, de choisir certains aspects des personnes qu'on peut épouser, de pouvoir léguer à un tiers ou à un autre sa fortune, toute une série d'aspects de la vie civile qui sont des éléments très importants. Il faut se souvenir qu'il y a la question politique, mais il y a la question des personnes civile, autant pour les libres que pour les esclaves qui n'ont pas de personnalité civile, bien entendu. Et Cyril Bissette, par exemple, est un acteur passionnant de ce point de vue-là. Au début, il est vraiment du côté, donc c'est un Martiniquais qui va être le premier homme de couleur à diriger un organe de presse à Paris, parce qu'il a été condamné au bagne, aux travaux forcés, marqué au fer rouge, pour des prises de position politique et des conduites politiques contre le colon. Et lui est d'abord plutôt du côté seulement des libres de couleur. Il ne reconnaît pas l'humanité des esclaves. Et progressivement, dans les années 30, il va devenir un des premiers abolitionnistes français et faire tout un travail propagandiste en faveur de l'abolition de l'esclavage. Donc on voit qu'il y a vraiment des histoires complexes à tenir en fonction des positions sociales relatives des acteurs dans ces sociétés coloniales.
Ça veut dire qu'il continue de se passer des choses entre le moment révolutionnaire et puis l'autre révolution qui va être celle de 1848. C'est-à-dire que pendant toute cette période de la Restauration, des choses bougent. Même si vous portez aussi une attention particulière au moment 48.
Oui, alors 48, là, c'est vraiment, quand même, vraiment quelque chose de radicalement différent. Et là, c'est sûr qu'on voit, on mesure, Césaire a écrit sur Schœlcher disant « Je mesure le caractère rare et presque inespéré de la décision prise entre Arago, et donc qui était l'équivalent du Premier ministre, on pourrait dire, et Césaire, et Schœlcher, qui est donc ce député républicain radical qui va promouvoir l'abolition de l'esclavage et qui va la mettre en acte et aussi vouloir cette assimilation politique, c'est-à-dire que d'un seul coup, en même temps que les paysans bretons, pour la première fois de l'histoire de France, enfin mal bien sûr, hein, votent au suffrage universel, en Martinique, à la Guadeloupe, de la même façon, les esclaves affranchis sont inscrits sur les listes de registres d'état civil qui forment les éléments de définition de la liste électorale, avec tous les problèmes de patronymie, d'obtenir un nom propre. Ça a été beaucoup travaillé par les historiens de 48. C'est quand même une transformation radicale que ce moment 48, de 48.
Autre moment, troisième moment sur lequel vous vous arrêtez, ça fait l'objet de la troisième partie du livre, la mise en place avec les grandes lois, les trois lois de la République, de la Troisième République, après la guerre de 1870. Donc ce moment assez fondateur de la République, sans doute tel qu'on la connaît aujourd'hui, Delphine Gardet.
Oui, donc la République se reconstitue. On a donc entre 48 et la Commune, on a donc Melville-Blancourt, par exemple, qui lui est un communard, donc qui va finalement qui était un proche de l'Élysée reclus, un révolutionnaire, un radical, et qui est assez loin finalement du pacte républicain de Schœlcher, par exemple, et c'est lui qui va rester à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale. Il va être incriminé parce qu'en fait on s'était pas rendu compte qu'il était communard, et donc la République de Thiers donc va se rendre compte que en fait il doit être condamné. Il est condamné à mort. Il s'enfuit à Genève où il est proscrit avec toute une série de proscrits. Et finalement, il n'arrive jamais à remonter la carrière. Mais c'est un personnage intéressant parce qu'il a développé toute une œuvre très, très riche sur les Caraïbes, sur les liens avec les mondes américains. Donc, il y a des portraits il y a un portrait de lui. On a des figures comme ça qui sont complètement en dehors du cadre habituel de nos repères républicains, de cette histoire coloniale. Et ça vaut la peine, pour ça, je pense, d'ouvrir les pages un peu au hasard pour lire ces histoires-là.
Alors, on trouve ces personnages à propos de ces, à la fois de ces moments différents et de ces lieux différents, parce que la Troisième République, ça va être aussi, au bout d'un certain temps, la Première Guerre mondiale. Vous vous arrêtez sur la figure de Diagne au Sénégal en particulier.
Oui. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que entre les deux directions que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire le vieil empire, les Antilles, et puis l'Algérie, et puis l'ensemble des conquêtes qui surviennent ensuite, il y a la position très spécifique des quatre communes du Sénégal, qui est une sorte d'entre-deux de ces deux mondes. Et donc, au fond, les communes du Sénégal, donc Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Gorée, vont obtenir des droits du même type que celles des territoires antillais du Premier Empire, et envoyer donc des députés à Paris dès 1848. En 1848, c'est Durand Valentin, qui est issu d'une famille de riches métisses bordelais, enfin de la branche métissée d'une grande famille bordelaise, et c'est un conservateur et un monarchiste, donc c'est un homme de couleur, si l'on veut, qui possède lui-même les habitations. Donc on voit aussi la complexité de ces situations et de ces positionnements sociaux dans l'espace colonial. Diagne, ce qui le caractérise, c'est qu'il est le premier homme noir, véritablement sénégalais, à faire campagne et à obtenir la députation en 1914 pour les quatre communes du Sénégal. Et il va donc jouer un rôle très important au plan symbolique. Il n'y a aucun État au monde, pas plus que en 1789, on a un législateur noir, bien évidemment, dans aucun pays du monde. On a en 14 un homme, un député africain, avec une position aussi importante, puisqu'il va jouer un rôle clé, on le sait, dans la mobilisation pendant la Première Guerre mondiale des tirailleurs et de la force des tirailleurs sénégalais, enfin qu'on dit sénégalais, la mobilisation.
On ne peut pas, en une demi-heure d'émission, rendre compte de toute cette histoire, de toute cette richesse, mais pour aller continuer d'avancer et d'aller vite, un moment par la suite, c'est le moment où émerge aussi une génération d'intellectuels qui vont avoir parti avec la politique. Alors, là, on trouve des noms qu'on connaît davantage, évidemment, celui de Césaire, que vous citiez tout à l'heure, par exemple, mais on trouve des écrivains, on trouve des intellectuels, on trouve une élite, au fond, venue de cet empire colonial, ce qui n'était pas véritablement le cas dans les périodes précédentes, Delphine Gardet.
Oui, avant, on a peut-être un moment juste avant qui est un peu la République des avocats, c'est-à-dire que on a Monerville, on a quand même Lamine Gaye, on a beaucoup de ces hommes-là qui ont fait la trajectoire d'être des avocats. On aura Gertie Archimède, qui est la première femme avocate de Martinique, qui est élue députée en 1945. Donc il y a le droit. Il y a la médecine, il y a toute l'école William Ponty qui forme les cadres de l'Empire. Et donc les hommes, à la fin du 19e et au début du 20e, circulent dans ce cadre impérial et constatent d'autres choses, font des liens, rencontrent d'autres colonisés, sont éclairés sur d'autres questions. Et donc il y a des solidarités très fortes qui se jouent. Mais c'est vrai que dans les années 30, là, c'est Césaire, c'est Senghor, c'est la négritude. Et on les connaît d'abord, et ils se font connaître d'abord par leur prise de position au titre de leur rôle d'écrivain,
comme intellectuel,
comme auteur, et ils vont en fait devenir des députés en 1945. Donc Césaire, il a déjà une renommée très importante, il a fait une tournée en Haïti, il a fait une série de conférences, et il est emporté par la vague, il est proposé par la vague communiste de l'après-guerre depuis la Martinique. Et Senghor, il arrive après Diagne, après Diouf, qui est donc Diouf étant le premier député colonisé musulman de France, donc c'est aussi intéressant, venant du Sénégal. Et ils incarnent en fait ce renouveau, cet élan, cette position paradoxale, hein, avec une foi encore forte dans les valeurs de l'universalité, de la citoyenneté, et les possibilités donc d'exercer une transformation à l'intérieur de l'Empire, et bien sûr une critique, très aussi intellectuelle et politique, omniprésente, un réalisme quant aux situations qu'ils connaissent en tant que colonisés.
En fait, ces noms, Césaire, Senghor, etc., sont demeurés extrêmement présents du fait de leur œuvre littéraire, sans doute, même sans doute plus que de leur rôle politique, et présents aussi dans les territoires desquels ils venaient. Mais qu'en est-il de ceux des générations précédentes ? Vous avez évoqué quelques noms. Au fond, est-ce que vous avez pu tenter de mesurer la présence dans la mémoire collective de ces grandes figures de la politique qui se faisaient à Paris, mais au nom de ceux qui habitaient ces territoires ? Qu'en est-il aujourd'hui sur place ?
L'impression, c'est quand même que elle est très, enfin, c'est très peu entretenu. Et aussi parce que certains personnages ont eu des destins compliqués. Si on pense à Bicêtre, par exemple, bon, il a pris quelques partis à la fin de sa vie qui le placent plutôt du côté de la République ou de la conservatrice ou monarchiste. Et donc, sa lutte à mort, il y a des duels avec, pas avec Schœlcher directement, mais avec des proches de Schœlcher. Donc, il y a des duels à l'épée ou au pistolet. Donc, il y a vraiment des histoires et des enjeux locaux qui font que certains de ces personnages ne sont pas de bons clients pour la mémoire nationale ou identitaire suivante.
On ne peut pas en faire des héros facilement.
C'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce qu'au fond, ils sont très révélateurs des contradictions dans lesquelles ils se situent. Bon, Hégésippe Légitimus, qui est donc ce député guadeloupéen, qui est le fondateur du Parti Socialiste guadeloupéen, qui va inventer le négrisme vers 1900, donc qui est le premier à finalement théoriser une forme d'affirmation noire, d'un prolétariat noir, donc faire une union, on pourrait dire, entre la classe la plus basse de la société antillaise et le fait d'être noir et descendant d'esclaves. Il a aussi une postérité complexe. On lui attribuera des malversations. Il va se compromettre, dit-on, pour l'historiographie peut-être marxiste traditionnelle, avec l'industrie du sucre. Il va essayer de négocier les salaires pour les ouvriers, etc. Il va donc avoir des formes de compromission avec les colons blancs. Et donc, finalement, c'est très compliqué de départager dans la façon dont il est raconté par différentes lignes historiographiques et par différents auteurs, de saisir quand même et il faut rappeler la performance de son geste et l'importance qu'il revêt. Bon, lui sera victime d'un racisme vraiment très 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 difficile à Paris. Il va déserter pour l'essentiel le Palais Bourbon. Il n'arrive pas à y rester. Alors que d'autres députés s'implantent à Paris, sa culture aux mœurs républicaines, à la vie un petit peu ordinaire du parlementaire, un petit peu cossu. Alors Diagne, c'est le cas, il devient vraiment tout à fait un notable. Et puis, par exemple, Gratien Candas, aussi, qui a une très grande longévité, qui est un député de la Guadeloupe, qui est très proche, enfin, qui est assez proche de Diagne, ils sont à peu près contemporains. Et c'est vraiment l'homme du milieu, celui qui résiste à tous les changements, qui, ne s'engageant pas trop, ne risque point trop d'être déplacé. Alors, il y a aussi le problème de ceux qui vont voter les plein pouvoir à Vichy, comme Candace, justement, ce qui est quand même intéressant à retenir et à regarder en tant que tel.
Il y a toute cette période de la guerre, mais alors au sortir de la guerre, il y a ce moment politique important dans l'histoire de France, avec la naissance de la 4e République, la reconnaissance des droits sociaux, vous en disiez un mot tout à l'heure. Évidemment, le droit de vote aux femmes en 1944, et donc le droit d'être élu aussi et d'être représentante au Parlement, j'imagine que ça vient changer quelque chose à ce que vous étudiez, une forme d'intersectionnalité peut-être entre le genre et la race à ce moment-là.
Oui, mais étonnamment, ça reste assez peu traité encore, peu considéré. Parce que, en fait, c'est un chiffre qui est étonnant. Il y a une trentaine de femmes qui sont élues députées, donc elles ne seront jamais plus nombreuses jusqu'en 1997. Hein. Donc, bon, c'était quand même vraiment le mieux qu'on ait pu faire.
C'est jusqu'à juste... la parité.
Voilà, jusqu'à la parité. Enfin, le gouvernement Jospin, puis la parité. Et du côté, on a complètement oublié aussi que ce qui se passe en 46, c'est qu'au-delà des députés antillais et du député sénégalais habituel, on va avoir des représentants d'Algérie, issus donc arabes et musulmans, issus donc des seconds collèges, qui ont été trafiqués de telle façon que quand même la proportion, la représentativité électorale de l'ensemble du corps électoral algérien est très 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 limitée par rapport à la force et à la chance qu'ont les députés blancs et les descendants des Européens d'être représentés. Mais on a aussi donc des représentants de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française. Donc on a Apiti, Oufouet-Boigny. Donc on a en fait une vague de députés. Et puis des Malgaches et un député comorien. Donc en fait, on a un renouvellement. Ils sont une trentaine. Et c'est quelque chose de complètement neuf.
Un député comorien, ça nous fait une transition avec la deuxième partie de l'émission pour laquelle Toufat Moutard va nous rejoindre, puisqu'elle est née aux Comores. Elle publie en cette rentrée « Choses qui arrivent ». Elle nous rejoint tout de suite à distance. C'est après un extrait du nouvel album de Guiss, « Cobra ».
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Should be ashamed. You should be ashamed.
l'Afrique, les Antilles, l'océan Indien. On fait beaucoup de géographie aujourd'hui. À la suite, dans les idées, on parlera du Festival international de géographie en dernière partie d'émission dans la rubrique Actualité, festival qui se tient à Saint-Dié dans les Vosges comme chaque année et qui vient d'ouvrir. Ce sera avec Thibaut Sardier. Mais on continue à parler de cette République française, plus ou moins universelle, et on continue après en avoir parlé au plan historique avec Delphine Gardet, à en parler de manière peut-être un peu plus littéraire, mais à travers beaucoup d'expériences avec vous, Toufat Moutard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le disais en commençant l'émission, née aux Comores, pas à Mayotte, ce département français dont je parlais comme étant le royaume des exceptions de la République, et en cela dans le sillage de tout ce qu'a décrit Delphine Gardet. Vous êtes née sur une autre île de l'archipel. Vous avez aussi beaucoup vécu en Afrique, et dans ce livre qui paraît aux éditions Bayard, vous faites le récit de beaucoup de choses au pluriel qui arrivent, dont on imagine qu'elles vous sont arrivées à vous, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Alors, je suis née, j'aurais pu écouter Delphine Gardet durant des heures. Hein. Donc, je suis née aux Comores et j'ai énormément voyagé en Afrique australe parce que j'ai eu, je pense, une enfance qui m'a complètement détachée de cet héritage colonial dont je suis, malgré moi, issue. Et donc, je n'en avais pas forcément conscience. J'ai vécu au Burundi, au Congo-Brazzaville, au Mali. Et ce qui est spécifique dans ce parcours-là, c'est qu'à chaque fois que l'on devait partir, ma famille et moi, c'était à cause d'une guerre, d'un conflit. Donc, au Burundi, par exemple, on était à côté du Rwanda en 94. Donc, on a eu à chaque fois des départs précipités. Et quand j'arrive en France pour poursuivre mes études, j'arrive avec un esprit de voyageuse, d'exploratrice. Pas du tout avec l'esprit que je débarque dans le pays qui avait colonisé le mien et donc dans lequel je vais essayer de m'intégrer. Je n'avais pas du tout cela en tête jusqu'à ce que l'on me refuse un renouvellement de titre de séjour à l'issue de mes études.
Voilà, jusqu'à ce que vous rencontriez la République française dans sa dimension administrative. Cette République française que vous avez peut-être observée depuis une autre île que Mayotte, dans ce qu'elle propose sur Mayotte, qui doit être... Je ne sais pas comment on voit les choses depuis une autre île des Comores.
Alors, sur mon île, Ngazidja, qui est l'une des trois îles ayant opté pour l'indépendance, au moment des indépendances en 1975, il y a deux visions. Il y a l'une des visions qui dit qu'il faut laisser Mayotte décider de son sort et rester française. Et puis il y a l'autre vision d'un sentiment d'injustice et de la volonté de faire revenir Mayotte. Donc, je suis la fille d'un militant, par exemple, décédé, mais un militant qui voulait que Mayotte revienne dans le giron comorien. Et donc, on avait de très longues discussions à ce propos.
Alors, cette expérience des papiers en France est au cœur de vos récits, de ce livre. Vous écrivez, par exemple, « En France, un étranger sans papier doit justifier d'un certain nombre d'années d'activité, de travail et de paiement d'impôts avant de pouvoir demander une régularisation de sa situation. Pour être en règle, vous devez légèrement enfreindre la règle. Vous ne pouvez pas entrer en piste, mais vous devez veiller à danser en périphérie, demeurer visible sans vous faire repérer. Je pourrais énumérer les métaphores de ce genre longtemps encore, tant elles sont égrenées dans mon esprit durant ma période de jachère, écrivez-vous.
Oui, oui. Alors c'est vrai que je pense que c'est une interdiction de légèreté. Je dis souvent que Chose qui arrive est un livre sur la joie, sur la détermination à la joie, à la légèreté, parce que je pense que c'est ce qui est le plus interdit dans ce contexte géopolitique dans lequel certains individus ont le droit de voyager et d'autres pas, en tout cas pas pour le loisir. Et je pense que pour moi qui ai vécu le voyage comme quelque chose qui est très lié au plaisir et pas à quelque chose de subi, de définitif, j'ai découvert ça de façon très naïve en France. Et je pense que ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'était plutôt que de me faire violence, parce que je pense que quand on est considéré comme étant immigré, donc considéré comme n'étant pas à sa place, n'étant pas censé être là, et donc censé prouver la légitimité de sa présence là, je pense que l'injonction première, c'est se faire violence. Se faire violence pour renouveler ses papiers, se faire violence pour se définir sous ce prisme-là. Et en fait, moi, ce que j'ai décidé à ce moment-là, c'était de me faire douceur. C'est-à-dire de prendre le mouvement complètement inverse et de clamer mon droit à cette légèreté que j'ai quand même aussi rencontrée en France.
Alors, quelle place a tenu ou tient encore, d'ailleurs, l'écriture dans ce programme que vous vous êtes fixé pour vous-même de douceur ?
Alors, l'écriture, pour moi, c'est déjà, dans Choses qui arrivent, c'est un moyen d'aller chercher les raisons pour lesquelles, je pense, on a parfois tendance à s'empêcher d'être heureux. Je me suis rendu compte que ce que je prenais pour étant un cas particulier, s'appliquant uniquement à moi, était quelque chose d'assez universel. On a souvent tendance à s'empêcher d'accéder à la joie, d'accéder à de la simplicité, selon des mécanismes qui sont propres à chacun. Et donc, je voulais vraiment explorer, en écrivant, ce que l'histoire avec un grand H faisait à nos histoires intimes. Et toute nationalité confondue, toute condition confondue, qu'est-ce que cela pouvait faire si, par exemple, j'étais une ressortissante française qui allait à l'étranger, à qui on interdisait d'habiter dans cet endroit-là. Voilà, je ne voulais vraiment pas me placer en fonction de mes origines, parce que, et sans doute c'est là que c'est très naïf, hein, mais je ne voulais pas du tout me définir selon un héritage que l'on m'aurait imposé. Donc c'est un exercice qui était assez complexe, parce qu'il fallait que je me défasse de tous les récits que j'avais reçus, que ce soit sur Mayotte par exemple, sur mon pays qui faisait partie de Madagascar et dépendance pendant une certaine période, donc de Madagascar et dépendance en tant que colonie. Il fallait vraiment que je me détache de cela et que je m'inscrive dans une démarche plus personnelle, plus intime. Et je pense que l'intime, c'est vraiment un territoire qui est très difficile d'accès quand on est mal placé, entre guillemets, sur l'échiquier géopolitique.
Delphine Gardet.
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir lire quelques pages ce matin de votre travail et de votre roman. C'est magnifique parce que je pense qu'il y a une espèce d'ironie un peu flottante. Il y a une poésie, il y a quelque chose de l'ordre d'une ligne qui est proposée, qui est un espace qui finalement défie l'ensemble des contraintes qui lui sont faites, tout en travaillant la question de ces contraintes. Donc c'est vraiment, j'ai hâte de continuer ma lecture en fait.
C'est partagé. Je suis en train de lire votre ouvrage aussi, Delphine. Et ce que j'ai trouvé beau, par exemple, dans la citation de Bellet, c'est qu'il dit « Je suis née en Afrique, moi ». Et qu'ensuite, il explique qu'ensuite, on l'a ramené sur un sol de tyrannie, dans le sens où on l'a ramené de force. Et moi, je pense que l'on m'avait ramené sur un sol de contraintes administratives, là où moi, je comptais seulement venir partager les trouvailles de mes explorations et en récolter d'autres. Donc c'est vraiment cette position de naïveté dont j'essaye de me moquer parfois dans le livre et que j'essaye aussi de réclamer en même temps.
Delphine Gardet, Toufat Moutard nous parlait du fait que les Comores étaient rattachés à cette plus grande région qui était Madagascar. Ça fait partie des lieux que vous avez regardés de près dans ce travail historique. Est-ce qu'il y a là des figures, des spécificités dans cette histoire du corps noir de la République ?
Le député comorien qui est élu, alors je ne sais pas si vous le connaissez, il était, en fait, il disait qu'il descendait directement du prophète, donc il était aussi musulman. Et d'ailleurs, il s'est battu avec une autre personnalité qui avait la même revendication. Et c'est vrai que là, il y avait vraiment plutôt quelqu'un de l'ordre d'une appartenant, c'était un médecin hein, qui appartenait à l'élite comorienne et il a vraiment gardé, il a réussi à conserver sa députation assez longtemps. Donc on a vraiment aussi la fabrication d'élites un petit peu indestructibles. Voilà. C'est peut-être plus du côté de Madagascar qu'on a quand même vraiment, avec l'insurrection de 1947, quelque chose de vraiment radical qui se produit. Et on a donc ce quatrième poète, en fait, de la négritude. Il faut que j'arrive à prononcer convenablement son nom. Rabemana Jara, qui ne siégera jamais parce qu'il a été condamné à mort comme insurgé. Et donc, avec les deux autres députés malgaches, ils vont être démis de leur 1947 de leur mandat et puis ont passé une partie de leur vie, à peu près 10, en prison.
Toufat Moutard, c'est des figures, une histoire qu'on apprend quand on va à l'école aux Comores ?
Alors, pas vraiment. On apprend, je pense, ces aspects de l'histoire comorienne, de l'histoire ancienne coloniale comorienne, une fois qu'on arrive en France. Sauf quand on a eu un professeur d'histoire particulièrement éveillé au fait que le programme éducatif est resté très rattaché à l'ancien programme colonial. Et ça, c'est une démarche qui est en train d'être faite. Il y a des anthropologues, des historiens qui essayent de faire émerger d'autres histoires. Parce que ce qui est spécifique aux Comores, c'est que c'est un archipel qui est à la fois lié à son passé français et à son passé arabo-musulman, à son passé perse. Donc on fait partie de plusieurs ensembles, y compris l'Union africaine. Donc il y a tout un ensemble d'identités comme ça qui font que on peut se sentir parfois dans l'intime comme un courant d'air. Et donc, ou alors comme une plante, je parle parfois de plantes rempotées dans choses qui arrivent. Et c'est intéressant parce que Belley est décrit comme étant transplanté. Donc oui, il y a vraiment ce positionnement-là. Et donc c'est en cours, ces apprentissages-là sont en cours de reconstruction.
Merci beaucoup, Toufat Moutard. Je rappelle le titre de votre livre, « Choses qui arrivent », il paraît aux éditions Bayard. Et merci à vous, Delphine Gardet, « Le corps noir de la République », un livre qui paraît aux éditions textuelles. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Une rubrique actualité consacrée aujourd'hui à un festival de géographie, le FIG, le Festival International de Géographie qui se tient à Saint-Dié dans les Vosges. C'est la 36e édition déjà, c'est dire que c'est une institution. On parle beaucoup de ce qui se passe autour de l'histoire à Blois, mais c'est toujours pareil en France, la géographie a un peu plus de mal à exister. C'est pourtant une discipline fondamentale des sciences humaines et sociales. Bonjour Thibaut Sardier.
Bonjour Sylvain Bourmont.
Vous êtes le président de ce festival et vous avez décidé cette année de choisir pour thème, puisque c'est un festival qui est construit autour d'une thématique chaque année, le pouvoir. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, parce que le festival, depuis 36 ans, vous le disiez, essaie de croiser l'actualité de la recherche en géographie avec l'actualité du débat public, l'actualité nationale ou internationale, et avec les bouleversements géopolitiques, les guerres en cours sur le globe, un petit peu partout, les changements électoraux, comme on a pu les voir aux États-Unis il y a quelques mois, on a constaté qu'il y avait là une remise en cause importante de grandes logiques du pouvoir dans une approche géopolitique qu'il était important de questionner pour donner à nos festivaliers et nos festivalières des clés de compréhension un peu différentes peut-être de celles qu'on entend habituellement grâce justement aux outils spécifiques à la géographie. Et puis parce que pouvoir, c'est aussi le pouvoir d'agir des individus, des groupes, que ça aussi, ça se matérialise dans l'espace par des lieux de mobilisation, des lieux de lutte, des aménagements aussi du territoire négociés avec les pouvoirs, quels qu'ils soient. Et donc, qu'il fallait là aussi, pour avoir cette dimension-là très importante aujourd'hui dans notre débat public, avoir ce mot qui était un bon croisement voilà, de ces deux grandes tendances.
Ça veut dire que la thématique, elle est traitée de multiples manières dans ce festival, j'imagine, avec des formats d'événements assez différents et qui concernent des régions du monde très différentes aussi.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir la géographie dans toutes ses dimensions déjà, donc à la fois de la géographie, de la géopolitique, de la géographie du politique, de la géographie de l'environnement. Toutes les dimensions sont réunies. Les géographes dialoguent aussi avec d'autres disciplines. On convie des historiens, des sociologues, et les formes, vous le disiez, des rencontres, de la table ronde à la conférence, aux rencontres en face à face, un géographe, un festivalier, voilà tout. Toutes ces formes un peu se démultiplient et on essaie de couvrir un petit peu le globe dans son ensemble. Là, si j'écoutais évidemment ce qui précède dans l'émission, il a beaucoup été question par exemple de Mayotte. Mayotte, il en sera question dans le festival sous plusieurs éclairages qui donnent un peu un reflet de ce que c'est que notre programmation. Il en est question par exemple dans une rencontre autour de Starlink, vous savez, la technologie de communication d'Elon Musk qui s'est imposée comme indispensable sable au moment du passage du cyclone Chido. Et donc là, on a un géographe qui interroge cette dépendance à un moyen de communication qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est l'entreprise d'Elon Musk. On s'interrogera aussi à propos de Mayotte sur les armées françaises, dans une table ronde sur les armées françaises en Centrafrique, à Djibouti et à Mayotte, pour voir s'il existe un pouvoir militaire et comment il se manifeste. Donc vous voyez là, voilà, géographie militaire, géographie plus des technologies et des grandes entreprises. Et puis il a un territoire effectivement qui est à 10 000 km, mais on parle des États-Unis, on parle de l'Ukraine, on parle de plusieurs pays du continent africain, de l'Asie du Sud-Est, beaucoup, puisque le pays à l'honneur cette année...
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a toujours un pays invité, cette année c'est l'Indonésie.
Tout à fait. Qu'on a choisi parce que on estime que c'est un pays qui n'est pas forcément très très connu du public français en général, alors que c'est le quatrième pays le plus peuplé au monde, que c'est une puissance importante en Asie du Sud-Est, qui longe de grandes voies de routes commerciales importantes.
Plus grand pays musulman au monde.
Absolument, et qui s'est construit aussi sur un modèle politique de la devise de l'Indonésie, c'est l'unité dans la diversité, ça rappelle la devise européenne, et donc aussi interroger cette construction politique de l'Indonésie indépendante à travers sa capacité à regrouper des communautés de cultures, de religions différentes. Il nous a semblé là aussi que pour penser nos propres, pour faire écho à nos propres questionnements sur ce qu'on appelle chez nous le vivre ensemble, il y avait là un miroir qui pouvait être intéressant d'observer, évidemment, dans ses spécificités, hein, pas que dans une approche comparatiste, mais que c'était une découverte importante, un pays important à analyser.
Alors, vous disiez tout à l'heure que la géographie, enfin, j'en parlais moi aussi, était souvent dans cette relation privilégiée à l'histoire. C'est comme ça qu'on la découvre à l'école avec des profs d'histoire-géo, alors que les géographes sont un ensemble spécifique. Mais maintenant, il y a une nouveauté à l'école, depuis quelque temps, en tous les cas au lycée, c'est cette fameuse spécialité qui s'appelle HGGSP, qui fait que la géopolitique a un peu surgi dans l'enseignement. Qu'est-ce que ça change pour un festival comme Saint-Dié? Est-ce que vous vous êtes interrogé sur cette question et que vous avez des demandes de la part du public scolaire ou des enseignants?
Alors les enseignants effectivement sont un public important et il y a plusieurs rencontres qui leur sont dédiées parce que une partie de la programmation est élaborée avec l'éducation nationale. Mais il est vrai que cette interdisciplinarité plus grande, la connexion aussi voilà aux sciences avec les sciences politiques, nous a amené nous à faire évoluer le festival en accentuant, comme je le disais tout à l'heure, les dialogues en fait entre des géographes et d'autres disciplines. Après, il ne faut pas oublier aussi que depuis une trentaine d'années, on va dire, pour simplifier, il y a eu un tournant qu'on dit social de la géographie. On se représente encore parfois la géographie comme avant tout un objet de considération de géographie physique, les fleuves, les rivières, éventuellement les préfectures et les sous-préfectures dans une dimension un peu plus politique. Mais ce tournant social, il amène les géographes à travailler sur la société, avant tout sur les habitants, la façon dont ils se représentent, projettent des représentations sur les territoires, comment ils la nagent. Donc, d'une certaine façon, cette ouverture de la géographie scolaire avec d'autres disciplines, elle fait aussi écho à une évolution de la discipline elle-même depuis une trentaine d'années.
Avec aussi, quand même, pour la géographie physique et les cartes, un partenariat fort avec l'IGN pour ce festival de Saint-Dié.
Oui, ça c'est un partenariat assez historique, hein, très très important. Et là aussi, la carte, elle est importante pour nous. D'abord parce que c'est évidemment le premier objet qu'on associe à la géographie, et parce que quels que soient les thèmes que l'on choisit, c'est toujours un bon reflet des problématiques. Les problématiques se matérialisent souvent dans les cartes. Là, pour cette année, la question des pouvoirs de la carte, on va la poser un peu dans tous les sens, en faisant écho à des sujets d'actualité. Quand Donald Trump veut rebaptiser le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, c'est la carte comme objet de pouvoir là qui apparaît dans toute sa splendeur. Quand on voit apparaître dans certains pays africains des mouvements de mobilisation pour que les planisphères des grandes institutions internationales représentent l'Afrique sous les bonnes proportions pour que le continent paraissent beaucoup plus grands qu'il n'est sur d'autres cartes, et les cartes qu'on utilise le plus souvent, les cartes de projection Mercator, on voit que voilà, ces représentations, elles ne sont pas anodines parce qu'elles forgent ensuite les esprits, et donc après, les décideurs sont, ou les citoyens évidemment, sont influencés par les cartes avec lesquelles ils ont grandi. Donc ces enjeux-là, qui peuvent sembler simplement symboliques, sont en réalité loin d'être anodins, et c'est aussi un objet de la géographie.
Merci beaucoup Thibaut Sardier, le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, donc les 3, 4, 5 octobre. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson, et l'émission a été réalisée par Sorge Leroy et Camille Mathy, que je remercie tout particulièrement.